Philosophie du vivant, Père Philippe.
Pourquoi dit-on que les degrés de vie se prennent du côté de la connaissance? Oui, ça c'est une question très générale. Hein. Très générale, qu'Aristote avait traité au début du De Anima, que saint Thomas a repris, et qui est une question importante de voir que les degrés de vie, la vie a comme opération principale et première l'assimilation. Or, la connaissance est une certaine assimilation. Et donc, par là, nous pouvons déterminer que le vivant de vie végétative assimile l'aliment, le vivant de vie sensible connaît, et le vivant de vie intellectuelle, sa première opération, comme nous allons voir, a un mode d'assimilation. C'est à cause de ça, c'est parce que c'est le caractère premier de l'opération vitale. On comprend les degrés de vie en fonction de l'opération vitale, puisqu'on ne peut pas connaître la vie autrement que les opérations vitales. Et c'est l'opération première qui caractérise donc la modalité de la vie. Et ces diverses assimilations montrent combien le vivant peut être plus ou moins libre à l'égard du monde physique. Et combien, au contraire, il est dépendant du monde physique. Le vivant de vie végétative est dépendant du monde physique, l'aliment. Il est dans un milieu donné par lequel il a l'aliment. Le vivant de vie sensible est plus indépendant que la vie végétative du milieu dans lequel il est, puisque son assimilation n'est pas une assimilation physique, c'est une assimilation intentionnelle. Quand je regarde une fleur, je ne la détruis pas, tandis que quand je la mange, je la détruis. Et la fleur disparaît dans l'estomac de la brebis. Tandis qu'au contraire, voir une fleur, non. Quand je pense à quelqu'un, je ne le détruis pas. Je suis encore plus indépendant, puisque ma connaissance intellectuelle est plus indépendante encore que ma connaissance sensible de son objet. Alors, c'est les degrés d'indépendance de la vie qui nous permet de donner les degrés de vie. Et ces degrés d'indépendance du vivant se voient à travers les modalités d'assimilation. C'est donc bien les diverses modalités d'assimilation qui permettent de comprendre ce que représente le premier degré de vie, la vie végétative, la vie sensible, la vie intellectuelle. Vous avez dit lors de l'avant-dernier cours que toutes les idéologies modernes nient la contemplation. Mais ne peut-on pas parler au moins dans le cas de la pensée de Nietzsche d'une certaine contemplation artistique? Non, même pour Nietzsche. Il n'y a pas de contemplation artistique. Il y a une créativité. C'est la créativité qui est le tout. Ce n'est pas la contemplation. Nietzsche voudrait bien retrouver à travers la créativité un nouvel amour, et donc par là, d'une certaine manière, une nouvelle contemplation. Mais il ne l'a jamais dit. Pour lui, c'est la créativité qui est importante. Le point fort de l'art n'est pas la contemplation, mais la créativité. C'est vraiment ça qui caractérise, et c'est pour ça que c'est le drame. Parce que le drame permet la créativité, prépare la créativité, mais juste l'inverse de la contemplation. Quand vous êtes dans un état dramatique, vous ne pouvez pas contempler. Tandis que quand vous êtes dans un état dramatique, vous pouvez quelquefois avoir des idées géniales. Ça peut arriver. Tandis que dans un état dramatique, vous ne contemplez pas. La contemplation exige un certain recul, un certain repos. Donc nous allons continuer, si vous voulez, à entrer dans ce que nous avions commencé de voir la dernière fois. Certains ont trouvé que c'était un peu dur. C'est vrai que c'est dur, le passage de la seconde opération, c'est-à-dire du jugement à l'appréhension. Autrement dit, la découverte de cette opération particulière où l'intelligence est au-delà de la réalité physique, de la réalité existante. Quand l'intelligence pense chat, l'intelligence est au-delà de tous les chats. Quand l'intelligence pense homme, elle est au-delà de tous les hommes. Elle est dans une perspective de dépassement par rapport à tout cela. Et elle connaît, par le fait même, quelque chose qui n'est pas dépendant de tel ou tel individu, et qui dépasse tous ces individus, et qui est dans un ordre différent, et que seule l'intelligence peut découvrir. Et pour bien saisir cela, il faut comprendre justement que quand l'intelligence appréhende, l'intelligence saisit certaines déterminations, les prédicaments, elle les saisit selon un mode universel. Et c'est cela que nous devons essayer de comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire quand je dis que la signification de chat a une signification universelle, au-delà de tous les individus particuliers? Quand je dis que je connais homme et que je saisis homme ou animal, homme et animal ont une signification indépendante de tous les individus. Ça ne veut pas dire que la signification de l'homme soit née sans les individus. Ça veut dire que quand je pense homme, je le pense à un niveau qui est au-delà de tous les individus. Mais l'origine de cette connaissance, ça vibre très fort. Je ne sais pas si pour vous, ça vibre. Vous sentez ? C'est très désagréable. Donc, quand on pense homme ou quand on pense chat, de fait, on est au-delà de tous les individus, même si les individus ont été la source de cette connaissance particulière de chat ou de homme. Mais la signification de chat et la signification de homme est au-delà des individus. Tandis qu'au contraire, lorsque je sens, lorsque je touche, je suis toujours en dépendance de l'individu. Oui, c'est là où nous voyons comment la connaissance intellectuelle peut arriver à avoir un certain dépassement à l'égard des individus. Et la signification de la connaissance intellectuelle est donc au-delà de tous ces individus. Alors, il faut essayer de comprendre ce que signifie ce mode universel. La signification de ce terme « chat » a une signification universelle. J'englobe tous les chats. Je constate, hein, je n'explique pas, je constate. Je constate que mon langage peut avoir une signification universelle et que mon langage peut avoir une signification particulière et singulière. Quand je dis « pierre », ce n'est pas la même chose que « homme ». Et donc, il y a là deux significations différentes. « Pierre m'est donné dans le jugement », c'est le nom. Homme m'est donné dans cette opération antérieure au jugement, qui est cette opération qu'on appelle appréhension. Animal m'est donné avant, antérieurement. Il faudra bien comprendre qu'est-ce que c'est que cette antériorité. Je peux dire au fond antérieur à la connaissance de tel animal que je dis cet animal existe. Autrement dit, homme dans sa signification, chat dans sa signification, sont au-delà des individus existants. Ils ont une signification universelle. Alors il s'agit de comprendre comment l'intelligence peut avoir ou produire une connaissance dont la signification est universelle. C'est quelque chose de tout à fait nouveau comparativement à la représentation imaginative. La représentation imaginative demeure toujours individuelle. Et la signification peut être au-delà. C'est pour ça que je crois qu'il faut réserver le mot « représentation » à l'image, et le mot « signification » à l'intelligence. Il y a quelque chose de particulier. On ne parlera pas d'une représentation universelle. C'est très difficile. On pourrait, d'une certaine manière, mais c'est très difficile. Dans le symbolisme, pourra y avoir une certaine représentation universelle. Mais c'est peut-être le propre du symbole. Vous voyez, tandis que quand j'ai une représentation toute simple de quelque chose qui est un individu, on ne dira pas du tout que c'est universel. Et on ne dira pas non plus que c'est symbolique. On dira, ah tiens, c'est cet individu. Vous voyez, une photo n'est pas symbolique. Elle représente un individu. Tandis qu'au contraire, je peux représenter un signe particulier qui a valeur de symbole. Et à ce moment-là, cette représentation a une certaine valeur universelle. Mais ce n'est pas premier. Ce qui est premier, c'est la signification universelle des termes simples comme animal, chat, homme, et ainsi de suite. Blanc, rouge, signification universelle. Alors, comment se produit au plus intime de mon intelligence cette signification universelle que je constate ? Dans les termes simples, que je constate dans ce que j'appelle les prédicaments. Je constate qu'il y a en effet apparition d'une signification qui n'est plus du tout au même niveau. Il faut donc essayer d'expliquer ce passage de l'image qui a une valeur de représentation singulière. À quelque chose de nouveau qui signifie, l'image ne signifie pas, elle représente, qui signifie dont la signification est universelle. Alors j'ai dit qu'il y a des termes, d'abord c'est ce que je constate, il y a des termes, termes chat, termes homme, alors il y a une signification universelle. Il signifie quelque chose d'une manière universelle. Comment expliquer ce passage de l'image au terme ? J'ai dit précédemment, et ça a été tous les deux cours précédents, si vous vous souvenez bien, c'est d'essayer de comprendre comment j'ai dans ma vie intellectuelle un jugement, ceci est. Jugement d'existence. Ou un jugement tout simplement, Pierre est intelligent. Et nous avons vu comment de ce jugement, il fallait découvrir au-delà de ce jugement et à l'intérieur de ce jugement une saisie. Une appréhension qui dépassait le ceci, le nom et le verbe, pour saisir un terme universel, du moins quelque chose exprimé par un terme universel, quelque chose exprimé par un terme universel, ce que je n'ai pas encore précisé. Nous avons vu ça. Ça, c'est très important de bien le saisir. Et si vous avez des difficultés là-dessus, réfléchissez-y et essayez de formuler vos objections. C'est la seule manière d'avancer. C'est la manière dont on coopère le cours, vous savez. C'est d'essayer, quand on écoute un cours, et qu'il y a des choses, parce que c'est très difficile, on dit après le cours, oh, c'était très difficile. Exprimez la difficulté. Vous voyez ? Moi, je ne peux pas savoir vos difficultés. Puis c'est les miennes, mais pas les vôtres. Hein. Alors, je ne peux pas savoir vos difficultés, donc vous devez essayer d'exprimer. C'est la seule manière, parce qu'autrement, il n'y a pas de dialogue. On continue, et puis ça risque de ne plus rejoindre vos préoccupations. S'il n'y a pas de difficultés, il ne faut pas les inventer. Hein. C'est déjà assez difficile. Alors, ce n'est pas la peine. Mais s'il y a des difficultés, on essaie de les exprimer. On essaie de les formuler. C'est toujours très bon de formuler une difficulté. Parce qu'en résolvant la difficulté, on permet de progresser. Si vous ne formulez jamais de difficulté, vous ne progressez pas. Ça retombe. C'est l'eau qui tombe sur la peau d'un canard. Alors on peut en ajouter tout le temps, mais ça tombera tout le temps. Tandis qu'au contraire, si vous formulez vos difficultés, si vous arrivez à les formuler, alors à ce moment-là, on progresse. Et à travers un cours, tiens, je ne comprends pas. Alors on essaie. Qu'est-ce que ça veut dire? On y réfléchit et on essaie de formuler. Oui. Alors, c'est comme ça qu'il peut y avoir un dialogue qui se fait selon une modalité particulière, parce que c'est des petits papiers qu'on met sur la table, mais c'est quand même un dialogue, parce que ça vient de vous. C'est une difficulté qui vient de vous, c'est pas moi qui les forge. Et vous les exprimez de cette manière-là. Je sais très bien qu'au début, c'est très difficile. Hein. Les étudiants de première année, c'est quasi impossible de formuler des difficultés. Quasi impossible. Ils sont des canards qui reçoivent la douche régulièrement et au bout d'une heure, on ferme le robinet. N'est-ce pas ? Et alors, c'est tandis que les autres, qui sont déjà un tout petit peu plus habitués, alors ceux-là ont déjà assimilé, ont déjà d'autres points de repère et peuvent à ce moment-là essayer de formuler les difficultés qu'ils peuvent avoir. S'ils n'en ont pas, tant mieux, on progresse. N'est-ce pas ? Mais s'ils en ont, ils les formulent. Parce qu'il faut bien se dire que quand on a une difficulté, il y a des chances que cette difficulté qu'on porte en soi, les autres aussi la portent en soi. Pas toujours, hein ? Parce qu'on est chacun individuel, non seulement dans ses qualités, mais aussi dans ses difficultés. Alors, c'est pas toujours comme ça. C'est pour ça qu'on ne peut pas poser indéfiniment des questions, parce que ça n'avancerait pas. Donc, c'est pour vous montrer, donc, je rappelle ici, cette appréhension, on saisit un terme universel. Donc, le problème qui se pose ici, c'est normal, ayant découvert cette opération première qui correspond à mon langage, où j'ai des termes simples, des appellations simples, des appellations qui ont été résumées dans les 10 prédicaments. Et j'essaie de comprendre le passage de homme à pierre. Bon, c'est un premier passage de homme à pierre, ou plus exactement, je suis passé de pierre à homme. Et de passant de pierre à homme, j'ai vu que homme était antérieur à pierre. C'est ça que je peux dire, pierre est un homme. Et j'ai découvert ça. Maintenant, j'essaie de comprendre ce passage, alors plus difficile, le passage de l'image au terme universel porté dans mon appréhension. Vous voyez, il y a deux passages très importants et qui sont difficiles l'un et l'autre. Le passage du fruit du jugement, ceci est, Pierre est un homme, à la découverte de l'appréhension. Je n'y reviens pas, puisque nous l'avons vu deux fois, n'est-ce pas ? S'il y a des difficultés qui reviennent, vous les noterez. Et maintenant, j'essaie, ayant découvert qu'il y a cette opération qu'on appelle l'appréhension, je découvre en effet que cette opération correspond à ces termes qui ont une valeur universelle, une signification universelle, et je me pose la question, comment le passage se fait de l'image à ce terme ? De la représentation à la signification. C'est un très gros problème qui a toujours hanté les philosophes hein, et qui continue de les hanter. Vous voyez, Kant, ça a été son gros problème. Il ne faut pas l'oublier, c'était le gros problème de Kant. D'où vient la signification universelle ? Alors, une solution très simple. Ah, il y a des formes a priori. Vous avez des formes a priori. Solution très simple. Je dis une solution très simple, qui était déjà la solution de Descartes. Mais il le dit autrement. Descartes disait, ah, il y a des idées innées. Je suis né dans mon berceau avec l'idée homme, avec l'idée chat, avec l'idée animal. Je suis né dans mon berceau avec ces idées innées, avec ces formes a priori. Alors évidemment, très vite, hein, tout ça a été emmailloté, d'une façon des quantités de choses, par des tas d'images, et puis toutes les tremblements de terre et tout ça qui font que j'ai complètement oublié ces idées innées. Et si je fais de la philosophie, c'est pour redécouvrir ces idées innées à l'état natif. C'est pas si bête. Pour redécouvrir quelque chose qui transcende tout ce monde matériel. Pour redécouvrir ces idées qui sont en moi et redécouvrir quelle est la première idée qui est en moi. Et tout l'effort de Descartes, c'est de redécouvrir cette première idée, l'idée de perfection, l'idée d'infini. J'ai en moi cette idée de liberté, cette idée d'infini, cette idée de perfection. Est-ce que je peux accepter ça? Position qui était déjà, d'une certaine manière, la position de Platon, la réminiscence. Au fond, la réminiscence était expliquée, le passage de l'image au terme universel. Alors Platon disait, mais j'ai eu une vie antérieure à cela, antérieure à la vie que j'ai maintenant. À un moment donné, j'ai été contemplatif. J'étais avec les dieux. Et je vivais avec les dieux. C'est pour ça que j'en ai un peu de nostalgie. J'ai des nostalgies de cette vie et qui est perdue parce que mon âme a été projetée dans mon corps et à cause de ça, mon âme s'est alourdie, elle a perdu ses ailes et alors à ce moment-là, elle est très lourde. Alors, vous voyez, c'est très curieux, la hantise qu'il y a, la hantise du paradis perdu, c'est la réminiscence. Ou bien au contraire, ah, mon âme est née avec des qualités merveilleuses, Rousseau. Vous voyez, Rousseau dans Descartes, c'est extraordinaire. Au niveau des idées. Au niveau des idées, c'est tout à fait ça. Il y a eu un temps où j'ai eu des idées merveilleuses. Mais enfin, ça a été perdu, la civilisation que l'homme a obligé de parler. Enfin, j'ai perdu mes idées. Et j'ai été obligé de parler comme tout le monde. Alors que j'avais des idées qui m'étaient propres. J'étais un petit génie. Chacun d'entre nous, nous étions tous des petits génies. Mais on nous a obligés d'aller à l'école. Alors c'est très bien qu'à partir de ce moment-là, on devient bête. Parce que c'est évident que l'école rend bête. Alors que si j'étais resté seul, j'étais resté avec mes idées innées. Kant, c'est différent. Mais c'est toujours la même chose. Il faut retrouver quelque chose de primitif en moi. Quelque chose de premier. Vous voyez, la nostalgie de retrouver quelque chose de premier, ce terme. Alors, pourquoi je ne peux pas accepter Platon? Pourquoi je ne peux pas accepter Descartes? Pourquoi je ne peux pas accepter Kant? Je crois que c'est toujours la même raison. C'est que dans ces perspectives-là, au sens strict, ma connaissance ne vient pas de mon expérience. Ma connaissance, le développement de mon intelligence ne vient pas de mes expériences. Et donc, je ne peux pas expliquer le progrès. En réalité, il n'y a pas de progrès, il y a au contraire un retour à la source. Remarquez que de temps en temps, c'est un retour à la, le retour à la source, c'est un progrès. Pas quand on retourne dans le berceau, mais quand on retourne à la vraie source, c'est-à-dire Dieu, alors il peut y avoir un progrès. Mais ce n'est pas de ce progrès-là que je parle, c'est du progrès humain. Il y a un progrès scientifique, il y a un progrès artistique. On se fait la main. Tout artiste le reconnaît. Tous ceux qui travaillent intellectuellement le reconnaissent. Normalement, on comprend mieux la philosophie la seconde année que la première année. Normalement. Parce que de temps en temps, il y a des confirmations de Platon. À la deuxième année, on comprend moins bien. Mais alors, la troisième année, on comprend tout merveilleusement, vous voyez, ça peut arriver comme ça. Il peut y avoir des trous, je parle. On est écrevisse, voulez-vous. Un philosophe écrevisse, il marche par derrière, et à la place d'avancer, il s'alourdit toujours plus. Alors que normalement, il y a un progrès. On arrive à mieux saisir les choses. Il faut expliquer le progrès de l'intelligence. Et le progrès de l'intelligence, il provient de l'expérience. Alors, il faut bien que ces termes soient liés à l'expérience. L'expérience est source d'image, tout le monde est d'accord. Comment se fait-il que l'image peut être source de cette connaissance particulière que j'appelle l'appréhension? Comment expliquer ça? Parce qu'il faut expliquer qu'il y a un passage entre les données sensibles et les données intelligibles. Expliquer le passage du visible à l'invisible, c'est un autre problème, qui est toujours le problème philosophique. Passer du visible à l'invisible. Comment expliquer le passage du visible à l'invisible? Le visible, je le vois. L'invisible, je ne le vois pas. ces termes universels, quand vous dites chat, chat a une signification universelle, vous ne le voyez pas. Vous avez déjà vu une signification universelle? Non. Vous avez compris qu'il y avait une signification universelle, vous ne l'avez pas vu. Donc vous passez du visible à l'invisible. Tandis que la représentation, vous pouvez la voir. Je peux vous montrer ce que c'est qu'un petit chat. Vous comprendrez tout de suite, c'est vrai, il suffit de faire deux petites oreilles, là, immédiatement. Donc, représentation, c'est vu, c'est le visible. Et l'invisible, la signification du chat, vous ne l'avez jamais vu. Les pires positivistes acceptent la signification, l'invisible. Les purs positivistes, ils sont en contradiction avec eux-mêmes. Parce qu'ils ne devraient pas, ils devraient accepter que le visible. Hein, vous ne pouvez pas. Votre langage a une signification invisible. Votre langage est visible, mais il a une signification invisible. C'est par là qu'on devrait, pour les positivistes, hein, les poursuivre jusque dans leur retranchement. Vous êtes positiviste? Taisez-vous. Immédiatement. Ou bien vous avez le droit de parler sans qu'il y ait de signification. Alors, vous avez le droit de parler sans qu'il y ait de signification. Parce que dès qu'il y a signification, c'est autre chose. Une absence complète de signification. Dès qu'il y a signification, vous êtes en face de l'invisible. Et vous, c'est votre intelligence qui reçoit l'invisible. Quand je dis chat, oui, ça, on peut l'entendre. Et la signification, vous ne pouvez pas l'entendre. Vous la comprenez. Quand un gosse, c'est admirable quand on dit ça, quand on lui apprend un mot. Hein. C'est, on voit très bien le passage du visible à l'invisible. Plus exactement, ça ne se voit pas, mais ça se constate. On constate le passage du visible à l'invisible. Alors, il s'agit d'expliquer ça. Donc là, nous sommes en face, vous voyez, d'un problème fondamental qui existe dans toutes les philosophies. Ça a été expliqué de multiples manières, et ce serait intéressant de faire l'histoire de la philosophie par l'explication du passage du visible à l'invisible. Et vous savez très bien que ça a été la grande réaction violente de Nietzsche. L'invisible n'existe pas. Et vous voyez, en face de Nietzsche, on aurait dû lui dire, eh bien, vos paroles ont quand même une signification universelle. Non, c'est l'invisible. Si vous ne, vraiment vous ne voulez vous montrer que le visible, vous devriez uniquement dessiner. Uniquement réaliser des œuvres, uniquement le facere. Et même le facere va impliquer une inspiration. Ayant fait une œuvre, vous serez capable de dire non, c'est pas ce que je voulais faire. Au nom de quoi? Au nom de la visible. Puisque le visible, c'est ce que je vois, et c'est ce qui est fait, l'invisible n'est pas là. Quand vous mettez à critiquer ce que vous avez fait, ça prouve qu'au fond, vous remontez jusqu'à l'invisible. Et que c'est l'invisible qui mesure le visible. Donc on est toujours en prise avec ces deux-là. On le renie ou on le rejette. Et on n'a pas le droit de le rejeter. On essaie d'expliquer le passage entre les deux. Bon, on va essayer d'expliquer ce passage entre l'image et le terme. Alors ça, c'est quelque chose de très important. Je ne peux pas passer de l'image aux données intelligibles qui est universelle directement et immédiatement. Le visible n'engendre pas l'invisible. Et la représentation ne peut pas engendrer la signification. C'est impossible. Il n'y a pas de génération spontanée là. Impossible. Parce que je passe d'un niveau d'intentionnalité à un niveau d'une autre intentionnalité. Et l'intentionnalité universelle a quelque chose de plus profond que l'intentionnalité visible. L'une représente et l'autre peut signifier. Et elle a une signification universelle. Elle a donc quelque chose de beaucoup plus ample. D'où vient cela? D'où vient ce passage entre les deux? Ce passage de l'image? Alors, Et c'est nous qui comprenons. Ce terme, qui a une signification universelle, je le prononce,
je dis « anima ». Et en disant « anima », je pense « anima ». Donc, j'appréhende.
J'appréhende quelque chose que j'exprime par la parole. Ce quelque chose que je saisis, c'est là où la signification est première. Et cette signification va se transmettre dans le terme. Dans le terme verbal, dans le terme exprimé par la parole. D'où vient cette signification première? Elle vient de mon intelligence qui appréhende quelque chose. Ce quelque chose, elle le tient de l'expérience, puisqu'elle le tient du jugement de l'existence. J'ai saisi un ceci. D'où est promu un âme? D'où est promu un homme? Il faut donc regarder la différence qui existe entre Pierre, qui est un ceci, et homme. Toutes les déterminations de l'homme sont dans Pierre. Mais dans Pierre, il y a autre chose que l'homme. Donc, il y a certaines déterminations de Pierre que j'ai laissées tomber et d'autres déterminations que j'ai prises. Il y a eu un partage qui s'est fait. Et comment s'est fait ce partage? Le passage de Pierre à homme. Ce que Aristote soulignait, le passage de la substance première et de la substance seconde dans les prédicaments. Substance première, pierre, substance seconde, homme ou animal. Or, la détermination qui me permet de dire que homme a une signification, si homme a une signification, ça peut être une détermination. Cette détermination, elle est déjà dans Pierre. Mais dans Pierre, il y a plus que cela, il y a autre chose que cela. Il y a des quantités d'autres choses qui se sont ajoutées à Pierre et qui ne sont pas dans homme. Par le fait même, le passage de Pierre à homme, puisque Pierre est antérieur à homme, hein, il faut bien se le dire, Pierre existait avant que je le pense. Tandis que homme n'existe que quand je pense. Donc homme est comme naturel à ma pensée, et Pierre est antérieur à ma pensée. Donc Pierre a des tas de déterminations qui ne sont pas dans homme. Comment s'est fait le passage entre les deux, ce nettoyage entre les deux? C'est ce qu'on va appeler une abstraction. Il y a une abstraction qui s'est faite entre Pierre et homme. Qu'est-ce que c'est qu'une abstraction? Abstraere. C'est-à-dire saisir certains éléments et laisser tomber d'autres. Saisir certains éléments et laisser tomber d'autres. C'est bien ça. Dans... Tout ce qui est dans homme est présent dans Pierre, mais tout ce qui est dans Pierre n'est pas présent dans homme. Et donc, c'est le passage de Pierre à homme. Et ce n'est pas l'inverse. C'est très important. Platon, c'est le passage inverse. L'homme en soi est Pierre. Alors, c'est le passage inverse. C'est vraiment de Pierre à homme qu'il faut comprendre ce passage. C'est pas étonnant. Dans le jugement d'existence, dans le jugement, je saisis Pierre. Je ne saisis pas homme. Et j'ai dit que d'une certaine manière, le jugement était antérieur à homme. Le jugement est d'une certaine manière antérieur à l'appréhension, puisqu'il n'y a pas d'appréhension sans jugement. Il n'y a pas de jugement non plus sans appréhension. Et donc, il y a une réciprocité entre les deux. Et donc, c'est vrai que j'ai connu Pierre par mode d'expérience. Et j'ai connu homme par mode de saisie. Parce que j'ai jamais expérimenté homme. J'ai jamais expérimenté animal. J'ai saisi animal. J'ai saisi animal, je l'ai appréhendé. Je sais à peu près ce que ça veut dire. Quand je dis homme et quand je me dis animal, je sais à peu près ce que ça veut dire. Tandis que homme, je l'ai expérimenté. Donc j'ai une connaissance de homme beaucoup plus, j'ai une connaissance de Pierre beaucoup plus immédiate que celle de homme. La connaissance que j'ai de homme n'est jamais immédiate. Je n'ai pas d'expérience. Personne d'entre vous n'a moins l'expérience de homme. Je ne sais pas ce que ça ferait, mais l'homme en soi, c'est bon, non ? Je n'ai pas d'expérience de l'homme. J'ai l'expérience de Pierre, oui, ça oui. J'ai l'expérience de tel chat, mais je n'ai pas l'expérience de chat. Je n'ai pas l'expérience de l'animal. Je connais. Ça, c'est très important à saisir ça, parce que ça nous montre tout de suite le passage Pierre qu'on expérimente. Je peux lui saisir la main, Pierre. Il a toujours les mains froides. Tandis que homme, non. Et pourtant, homme, il a des mains. Ah, mais il a des mains d'une façon tout à fait particulière. C'est dans sa signification qu'il y a un corps et une âme. Et ce corps implique diverses parties. Et donc, s'il est un homme parfait, il aura des mains. Ça fait partie de la définition de l'homme, d'avoir des mains. Donc, c'est présent dans l'homme. Mais je n'ai jamais saisi la vie. Donc, pas d'expérience. Je saisis, j'appréhende. Donc, dans l'expérience et contenu homme, c'est vrai, dans l'expérience et contenu homme, mais homme provient de cette expérience. Et pour que homme apparaisse à partir de cette expérience, il faut quelque chose qui permette ce passage de homme à Pierre de homme. C'est indispensable. Pierre, j'en ai une image. Je peux avoir une image de Pierre. Je peux faire un croquis de Pierre. Je ne peux pas faire une image de homme. Impossible. Vous n'avez pas fait de caricature de homme. Vous ne pouvez pas. Mais vous pouvez faire une caricature de Pierre. Donc, Pierre et image, ça va de soi. C'est l'expérience qui me permet d'avoir une image, une représentation de Pierre. J'ai une représentation de Pierre. Et je le reconnaîtrai partout. Il a un tel nez. Tandis que homme, impossible. J'ai pas de représentation de homme. Vous voyez, ces deux niveaux tout à fait particuliers d'une connaissance par laquelle je touche une réalité existante et j'abandonne l'exister. La mise entre parenthèses de l'exister. J'abandonne l'exister. Je laisse tomber l'exister individuel et j'essaie de saisir dans Pierre ce qu'il y a comme détermination fondamentale première, les déterminations essentielles de Pierre. Alors les déterminations essentielles de Pierre, c'est qu'il est un animal, c'est qu'il est raisonnable, c'est qu'il est homme. Ah, il y a des déterminations secondes, il a deux mains. Ah oui, il a deux mains. C'est le propre de Pierre d'avoir deux mains. Ah, et puis il a une chevelure. Ah oui, c'est accidentel, parce qu'on peut lui couper. Et il resterait le même. Vous voyez ? Alors, on voit très bien que, de fait, je fais la distinction entre des déterminations accidentelles, des déterminations qui sont comme des propriétés, et des déterminations essentielles. Je peux classer ces déterminations. Mon intelligence saisit en Pierre une quantité de déterminations. Alors, je comprends comment on a classé ces déterminations. Les 10 prédicaments. Ils ont classé toutes ces déterminations. L'homme aime bien de classer les choses, hein, quand il voit qu'il y a des choses qui reviennent tout le temps. Qui reviennent tout le temps, non ? Les bras sont un homme, ce que les ailes sont un oiseau. Hein, c'est un genre comme ça. Alors vous coupez les deux ailes de l'oiseau, et puis vous coupez les deux bras de l'homme, et tiens, ils sont pareils. C'est extraordinaire. Il y a quelque chose de semblable. Il y a eu quelque chose de vous voyez, qui sont à la fois, qui ne sont pas cette détermination, l'homme reste un homme même quand il n'a plus de bras. L'oiseau reste un oiseau quand il n'a plus d'ailes. C'est désastreux, c'est dommage. Mais il reste un oiseau. Alors, il y a des déterminations essentielles, des déterminations propres et des déterminations accidentelles. Ce n'est pas la même chose de couper les ailes de l'oiseau que de lui enlever quelques plumes. C'est beaucoup moins cruel. Ça, c'est sûr, lui enlever quelques plumes, c'est
petit sourire. Tandis qu'au contraire, si vous prenez la coupe et l'aile, non, ça ne va plus du tout, ça ne veut pas dire un petit sourire. Bah, ouais. Bah, le tyran, il prend un souvenir de ceux qui l'ont tyrannisé. Il garde ses dents d'or. Oui, ça c'est très bon. À ce moment-là, c'est justement, il retire ses accidents, les choses accidentelles, vous voyez, qu'il prend. Alors, il y a des déterminations accidentelles, des déterminations propres, des déterminations essentielles. Les 10 prédicaments, ça vient de là. Il faut saisir cette chose-là, c'est important. Je peux très bien donner des talons comme ça, qui sont des choses que je retrouve tout le temps. Ce sont des lois. Des déterminations. Mon intelligence a donc la capacité de saisir dans l'expérience que j'ai de l'individu des déterminations essentielles. J'appréhende ces déterminations. Et c'est pour ça que le sujet propre de l'appréhension, saint Thomas nous dira toujours, la quiddité. Toti en einain. Qu'est-ce qu'on appréhende? C'est la quiddité. C'est le bien premier de l'intelligence. Le bien fondamental de l'intelligence. L'intelligence est faite pour saisir la quiddité. Des quiddités essentielles, des quiddités accidentelles, des quiddités... les déterminations. C'est la même chose. Le toti et l'énard. L'intelligence est faite pour ça. Elle saisit cela. Elle saisit ses... Et alors, à ce moment-là, elle saisit son bien et elle se l'assimile. Et je lui dis bien qu'elle me l'assimile, vous voyez. Tandis que Pierre, je ne l'assimile pas. C'est la différence entre l'intelligence et le boa, vous voyez. Le boa, il prend l'individu tel qu'il est, il le mange. Tandis que l'intelligence n'assimile que la quiddité. Elle assimile les quiddités, elle assimile les déterminations. Tandis que dans le jugement, quand je dis Pierre, je n'assimile pas Pierre. Je ne peux dire que Pierre est un homme que quand Pierre est là. Mon jugement est beaucoup plus dépendant de la réalité existante que de l'appréhension. Ça, c'est vrai. Mon jugement est beaucoup plus dépendant, parce que quand je juge, je dis Pierre, il existe. Il est. Pour pouvoir dire qu'il est, il faut justement qu'il soit là présent. Aucun autre ne me dise qu'il est présent. Est-ce qu'il existe encore, cet individu que j'ai quitté depuis 50 ans? Est-ce qu'il existe encore? Alors on demande à quelqu'un qui peut me dire « Oui, il existe encore. » Bon, vous voyez, le jugement d'existence, c'est toujours quelqu'un. Et alors c'est dans le temps. Mon jugement dépend de l'existence. Mon appréhension, non. Ah, je suis donc en présence de deux types de connaissances intellectuelles totalement différentes. Et ça, c'est très important. De respecter tout de suite cette diversité. L'intelligence appréhende, l'intelligence juge. L'intelligence juge, l'intelligence appréhende. Et dans le jugement, vous voyez, je reviens à la question initiale, dans le jugement, l'intelligence demeurait dépendante des réalités individuelles. Tandis que dans l'appréhension, je suis indépendant. Je saisis homme, je saisis animal. Si je suis indépendant, c'est parce que je l'ai complètement assimilé. Je le porte en moi. Et donc, je ne suis plus relatif à une autre réalité. Je l'ai été peut-être dans ma recherche, mais je ne le suis plus lorsque je peux définir. Parce que je peux définir à ce niveau de l'appréhension. Si l'intelligence, au niveau de l'appréhension, saisit la quiddité va se terminer par la définition. Je définis la réalité. Et quand je définis la réalité, je la mesure par ma définition. Je dis l'homme est un animal raisonnable. Aucun jugement ne dira ça. L'homme est un animal raisonnable. C'est vraiment une appréhension. Où je saisis la signification propre de l'homme. Et saisissant la signification propre de l'homme, je dis l'homme... Il est fondamentalement animal, mais il est plus qu'animal, il est raisonnable. Il y a quelque chose en lui qui détermine l'animal et qui est la rationalité. Donc je vois qu'il y a là deux opérations qui chevauchent tout le temps l'une par rapport à l'autre. et que je ne peux pas séparer. Je ne peux pas séparer le jugement d'appréhension, je ne peux pas séparer l'appréhension du jugement. Et si je sépare, je fais un schisme dangereux pour la vie de l'intelligence. Ça peut être momentané, oui, ça peut être momentané, mais je ne peux pas les séparer. Je peux les distinguer. Les distinguer. Donc je peux approfondir l'une, approfondir l'autre, sans les séparer, mais en les distinguant. Donc je distingue l'appréhension, qui est une opération qui implique une assimilation. Une assimilation des déterminations essentielles, des déterminations secondaires, des déterminations accidentelles. Il y a une assimilation de la quidité. J'assimile la quidité de l'individu. J'assimile les diverses déterminations de l'individu. Je suis capable de les assimiler. Mais cette assimilation est une assimilation très particulière. C'est une assimilation intentionnelle. Pourquoi c'est une assimilation intentionnelle? C'est-à-dire, je suis tout entier dépendant de la réalité d'où est venu Anima, homme, et cette réalité n'est pas changée parce que la peur. D'où c'est intentionnel. Je vous ai déjà dit, il faut bien comprendre ce que c'est que le mot intentionnel. Qui dit intentionnel dit quelque chose de totalement relatif à un autre et dit que l'autre n'est pas relatif à lui. Donc c'est une relation qui n'est pas mutuelle. C'est ça l'intentionnel. L'intentionnel apparaît dans les différents degrés de vie. La semence contient virtuellement le vivant parfait. Elle le contient intentionnellement. C'est réel, hein, l'intentionnel. Il ne faut pas dire que c'est réel. Mais c'est un réel...